Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais me consacrer aux questions 19 et 25. Pour ce qui est de la question 19, dans votre réponse à la liste de points à traiter, vous faites allusion à la commission d'enquête créée par la Chambre des représentants en 2016, qui a poursuivi ses travaux jusqu'en 2018. Ces travaux se sont consacrés, je le cite, sur des actes possibles de renseignement de l'État qui enfreindraient les normes constitutionnelles et légales de la part des militaires ou policiers depuis 1985 et jusqu'à cette date. En parlant de système d'espionnage militaire, enfin, parler d'espionnage militaire et politique en temps démocratique fait sonner toutes sortes de sonnettes d'alarme, notamment au vu des époques dictatoriales passées en Amérique latine. Nous avons constaté le 19 septembre 2018 que la Chambre des représentants avait décidé d'élever le rang du procureur à l'unanimité. D'après le rapport de la commission d'enquête, ces preuves sont dues aux archives Castiglione, avec plus de 60 caisses, avec des informations sur des opérations militaires. Ces archives contiendraient apparemment des preuves d'espionnage, de suivi, de pression, de chantage contre des partis politiques, des organisations syndicales, étudiants, des droits d'homme, des législateurs, des militaires, des dirigeants d'entreprises publiques, des personnes de haut rang du gouvernement et ce, en temps de paix. En outre, il est indiqué que ces informations ne peuvent être mises à disposition que de la justice. On sait que lors de la phase de l'enquête, la déclaration a été entendue, déclaration d'anciens militaires de haut rang en tant que témoin. Nous aimerions bien évidemment savoir ce qu'il en est donc de ce rapport final de la commission, les nombres d'actes de renseignement qui auraient été détectés, les mesures adoptées pour éviter que ces actes ne se répètent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer ces informations par courriel? Mais en l'occurrence, au-delà des données numériques, nous aimerions savoir quels sont les résultats de l'enquête menée par le procureur de Montevideo pour les délits économiques, sachant que trop de temps s'est déjà écoulé depuis que ces conclusions ont été partagées. À partir des réponses données à la liste de points à traiter, question numéro 25, le comité aimerait avoir davantage de détails sur la pauvreté des enfants. Plus concrètement, quel est le pourcentage de familles pauvres qui ont pu bénéficier du fonds Proyecto Familia? Combien de bénéficiaires dans le cadre de la loi 18-225 de décembre 2007, comme la pandémie l'a démontré l'année dernière et comme dans de nombreux pays, la pauvreté a considérablement augmenté, ce qui a touché directement la vie d'enfants, filles et adolescentes, et il semblerait que la tendance se poursuive. D'autre part, le comité se félicite du plan national de prise en charge des enfants en situation de rue 2020-2030, élaboré sous la houlette de l'INAO. Cela étant dit, nous avons reçu des informations faisant état d'un manque de développement de certains aspects de ce plan, notamment l'actualisation des données relatives aux enfants et aux adolescents en situation de rue. Il semblerait qu'il y ait un décalage depuis 2007 pour le niveau pour la capitale et que les derniers chiffres à l'échelle nationale remonte à 2004. Par exemple, en 2021, le nombre d'enfants en situation de rue, des enfants qui dormaient dans la rue, le nombre de ces enfants était d'au moins 1168 enfants. Donc, au moins 1168 enfants ont passé une nuit dans la rue en Uruguay. 45% d'entre eux n'avaient aucune expérience de la rue préalable. Ces informations sont officielles puisqu'elles sont fournies par le ministère du Développement social. Pourquoi est-ce que cette situation est critique? Parce que les enfants en situation de rue sont exposés de manière exponentielle à toutes sortes d'abus, abus sexuels, maltraitance, et j'en passe. Par conséquent, quelles sont les raisons à ce retard dans l'actualisation des données? Si vous y travaillez, à cette actualisation, Quand est-ce que vous pensez que le document sera prêt afin que nous puissions examiner ces chiffres? Nous insistons sur les chiffres car c'est le seul moyen de mesurer objectivement les efforts consentis par l'Uruguay. En ce qui concerne l'éradication du travail des enfants, il est essentiel d'actualiser la liste des métiers dangereux au sein de l'INAR. Cela étant dit, il faut également disposer d'informations actualisées en la matière. La dernière enquête nationale, d'après les informations officielles, remonterait à 2011. Dans cette enquête, en outre, déjà en 2011, on indiquait que 8,5% des enfants uruguayens réalisaient des travaux considérés comme dangereux par l'Organisation internationale du travail. Quand est-ce que vous envisagez de mener une nouvelle étude afin d'avoir des informations qualitatives et quantitatives sur la réalité du travail des enfants en Uruguay, sachant que plus de 10 ans sont écoulés depuis la dernière étude? Enfin, pour ce qui est des campagnes de sensibilisation des citoyens, nous avons reçu des informations très intéressantes sur les campagnes réalisées entre 2016 et 2018. Nous aimerions savoir quelles sont les campagnes qui ont été réalisées depuis 2018. Vous pourrez nous envoyer d'ailleurs ces données par courriel. Ce n'est pas la peine d'y répondre oralement, faute de temps.